L'Happy Hour scientifique.
C'est goûtu, hein. Ça a du retour.
La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Avec bonne santé, les gueux.
Bonjour et bienvenue à tous, c'est l'Happy Hour scientifique, votre émission de vulgarisation scientifique en direct sur Radio Campus Paris. Nous sommes le 13 juin 2024. Il est 20h01 et demain c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Et à cette occasion, nous avons le plaisir de recevoir Laure Bourguignat, directrice adjointe de l'établissement de transfusion sanguine Île-de-France avec l'EFS. Avec elle, nous allons pouvoir explorer de nombreuses choses, des sujets fascinants autour du don du sang, depuis la composition du sang et les fonctions de celui-ci. Pour aller ensuite comprendre comment on peut faire au niveau de l'EFS pour effectivement avoir ces dons qui sont réguliers de la part de dizaines de milliers de Français. Voilà les critères qu'il faut pour donner son sang. Il y a plein de choses à évoquer sur le sujet. On va parler de l'importance d'avoir des bénévoles en France et puis on parlera effectivement des innovations et des défis que doit réaliser l'établissement public chaque année. Et puis aussi dans les années à venir, il y a beaucoup de défis qui s'annoncent. On a plein de choses à se dire et pas avec n'importe qui puisqu'à la table, Sacha, tu vas bien ?
Ça va et toi Quentin ?
Impeccable. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Moi je vais faire un petit historique des folles théories un peu farfelues, mystico-religieuses qu'il peut y avoir autour du sang.
Eh ben, ça va être super intéressant, on va écouter ça avec beaucoup d'attention, ce sera en milieu d'émission à peu près. Mais avant ça on aura les gorgées de science avec Hilaria.
Oui, et, tout à fait. Pour commencer...
Mais tu vas parler de quoi tout à l'heure ?
On parle de la myopie dans les enfants après la Covid.
La myopie et le Covid, on va en parler tout à l'heure. Super, super intéressant comme sujet. Lorraine, tu vas faire le cap ou pas cap ?
Et je vous en dis pas plus, vous verrez bien tout à l'heure.
Très bien, c'est la grande surprise. En tout cas, c'est le programme de l'Happy Hour scientifique ce soir. Merci d'être avec nous, il est 20h03.
L'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
Pour nous éclairer sur le don du sang, nous avons le plaisir du coup de recevoir Laure Bourguignat. Bonjour Laure, vous êtes autour de la table. Et vous avez pu voir un petit peu les différents journalistes autour de la table. Vous êtes donc, comme je le disais tout à l'heure, directrice adjointe de l'établissement de transfusion sanguine Île-de-France. Je pense pouvoir avancer que vous êtes passionnée de science,
je ne
me trompe pas.
Oui, non.
Vous me dites, je vais essayer de vous présenter en quelques minutes. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me couper. Vous êtes biologiste.
Tout à fait, de formation à l'origine biologiste.
Et donc, vous avez étudié la pharmacie et la biologie à l'université Paris-Sud dans les années 80. Voilà, c'est assez.
C'est tout à fait ça. ne me rajeunit pas, mais c'est ça.
J'ai pris les infos que j'avais sur LinkedIn. Aujourd'hui, vous travaillez au quotidien pour la santé publique. Donc, qu'est-ce que vous faites en fait au sein de l'établissement français du sang ?
Eh bien, on s'occupe de l'ensemble de la chaîne transfusionnelle. On est l'acteur public du sang. Hein, donc, on est un certain nombre de salariés et on collecte le sang pour les receveurs, pour les patients.
On aura l'occasion d'en parler tout à
l'heure. Oui, tout à fait.
On échangera tout au long de l'émission pour en savoir plus sur le don du sang. C'est pour ça que vous êtes là. Mais avant ça, on va parler des gorgées de science avec Hilaria. Cette fois, on peut te lancer. C'est le jingle des gorgées de science.
Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça ?
Alors, dis-nous tout, Hilaria.
Et, il y a un article paru il y a peu dans Nature qui parle de l'augmentation de la myopie chez les enfants, en particulier chez ceux qui ont étudié en ligne pendant la période Covid.
Intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Bien sûr. La myopie est de plus en plus répandue dans le monde. Actuellement, environ 30% de la population mondiale est myope et ces chiffres devraient atteindre 50% d'ici 2050. La myopie forte, c'est-à-dire celle qui dépasse 5 dioptries, est également en augmentation. Et cependant, selon un article publié il y a quelques semaines dans la revue Nature, et c'est toutefois la prévalence de la myopie chez les enfants qui est particulièrement inquiétante.
Donc la myopie augmente énormément. Est-ce que le Covid a quelque chose à voir avec cela ?
Et tout à fait. La pandémie de Covid-19 n'a pas seulement modifié la manière dont les enfants apprennent, et elle a aussi transformé la forme des yeux, et le temps passé devant les écrans a explosé. tant que les activités en plein air ont chuté drastiquement. Et plusieurs études, notamment une étude réalisée à Hong Kong, ont effectivement montré une forte augmentation des cases d'allongement des globes oculaires des enfants, favorisant ainsi la myopie. Et notamment durant l'enfance, la structure de l'œil peut se modifier en fonction des conditions environnementales. Et l'allongement des globes oculaires améliore la vision de près, mais rend flou les objets éloignés, augmentant les risques des complications graves comme les décollements de la rétine et la cécité permanente. Et les recherches suggèrent que passer plus de temps à l'extérieur pourrait réduire de manière significative l'incidence de la myopie. Et des essais en Asie de l'Est ont démontré qu'une heure de jeu extérieur par jour diminue considérablement les risques de développer cette condition. Et cependant, mettre en œuvre cette solution peut être complexe, surtout dans les sociétés basées sur la réussite académique ou dans les zones urbaines manquant d'espaces verts. Et à Taïwan, en 2010, a été mis en place un programme dans les écoles nommé Tian Tian Sans Vent, qui encourage des heures d'activité extérieure quotidienne. Il est largement reconnu qu'il a permis de réduire les taux de myopie qui ont augmenté rapidement dans la région. Cependant, ces succès restent une exception en Asie. En fait, d'autres régions d'Asie où les taux de myopie sont parmi les plus élevés au monde n'ont pas connu des succès similaires à grande échelle et la plupart des régions continuent de donner la priorité au traitement de la myopie plutôt qu'aux mesures de santé publique visant à la prévenir.
Est-ce qu'il y a eu des études sur les solutions qui seraient peut-être plus technologiques pour ces personnes ?
Oui, bien sûr. Par exemple, en Australie, des chercheurs ont mené des études avec des lunettes à des luminothérapies qui émettent une lumière bleu-vert, une partie du spectre de la lumière naturelle du soleil. Et ces lunettes rappellent les lunettes à visière de Star Trek. Et elles ont été commercialisées pour atténuer les décalages horaires et améliorer la qualité du sommeil, mais elles se sont révélées prometteuses pour lutter également contre la myopie en induisant des changements transitoires dans certaines mesures oculaires liées à la réduction du risque de myopie. Et les résultats à long terme ne sont pas encore clairs, mais Scott Reed, optométriste à l'Université des technologies de Queensland à Brisbane, en Australie, qui a dirigé l'une des études, a déclaré qu'il y a là un potentiel certain. Et dans tous les cas, il est certain que la communauté scientifique a indiqué deux lignes prometteuses. D'une part, investir dans des solutions high-tech pour simuler les bienfaits de l'extérieur. D'autre part, adopter des mesures simples et éprouvées pour encourager les enfants à jouer dehors. Et ce sont les sociétés et les gouvernements qui devront décider entre ces deux voies. Et les choix de la société influencera directement la santé visuelle des générations futures.
Incroyable. Mais je ne savais pas qu'il y avait eu tant d'impact avec ce Covid.
Moi non plus.
Voilà. Il y a, incroyable que la myopie ait autant d'impact avec... qu'il y ait autant de myopes à cause du Covid.
Ah ouais.
C'est dingue.
Ouais.
C'est dingue. Bah, en tout cas, on a appris plein de choses. Tu es myope ou pas, Sacha?
Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je consomme beaucoup trop d'écran depuis le Covid et il faut que je fasse gaffe. Quoi.
On est tous pareil. On est addicts.
Non, c'est horrible. C'est horrible.
On va tous devenir myope dans quelques années, c'est terrible. Enfin bon, merci beaucoup Ilaria pour ces gorgées de science. C'est l'heure donc des shots à l'invité.
Pour commencer, on va prendre un petit shooter du bar.
Alors, ou vous suivez votre intuition, ou vous vous dégonflez.
Et du coup, on trinque à la tienne.
Laure, je peux te tutoyer ?
Oui, bien sûr.
Laure, je rappelle le concept. Tu vas avoir une minute pour répondre à un maximum de questions le plus vite possible. Voilà, est-ce que tu es prête ? C'est des questions assez simples, tu vas voir, ça se passe très bien. Ok, c'est parti. C'est l'Happy Hour. Le barman se rapproche et te demande « Qu'est-ce que je vous sers ?» Qu'est-ce que tu réponds ?
Un coca zéro.
Un coca zéro. Laure, d'où tu viens ?
De Paris.
Parisienne, Laure. Est-ce que tu aimes voyager ?
Oui, beaucoup.
Beaucoup, où ça ?
Partout dans le monde.
Waouh. Tu préfères la ville ou la campagne ?
Plutôt la campagne.
Est-ce que c'est une bonne situation, ça, directrice adjointe de l'établissement de transfusion sanguine Île-de-France ?
C'est plutôt une bonne situation et le matin, je sais pourquoi je me lève.
Quand tu étais petite, est-ce que tu voulais déjà prélever du sang à quelqu'un pour le donner à d'autres gens ?
Non, je voulais plutôt le regarder au microscope.
Au microscope, ah oui, intéressé par la science, comme
tout
on le disait.
Fait.
Est-ce que t'es plutôt Kylian Mbappé ou Carlos Alcaraz ?
Kylian.
Kylian, plutôt foot, Laure. Cinéma ou théâtre ?
Cinéma.
Allez, petite dernière, Karine Le Marchand, elle est sympa ?
Oui, très.
Elle rayonne.
Elle rayonne. Si je dis ça, c'est pas par hasard. T'avais eu l'occasion de la rencontrer il y a quelques années, en 2019, dans le cadre d'un spot de promotion de l'EFS diffusé sur M6. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler donc du don du sang. Mais avant ça, je vais faire une petite introduction, pour histoire de savoir de quoi on parle. Il coule dans vos veines, il vous permet de vivre. Il est rouge, c'est un texte que j'ai préparé, je pense que ça se sent, ça s'entend. il est rouge quand vous vous blessez, je ne pense pas que ce soit plus évident. De quoi je parle ?
Du sang, je crois.
Le sang, vous êtes trop fort, jeune homme. Le sang essentiel à la vie humaine, c'est ce tissu liquide qui circule dans notre corps grâce aux vaisseaux sanguins. Une première question, Laure, histoire de bien comprendre de quoi on parle, de quoi est composé le sang ? Quelle est
la
composition
du sang ?
Alors
en fait, le sang, c'est pas seulement un liquide, c'est une suspension cellulaire en fait. Donc il y a un liquide de fond qui s'appelle le plasma et dans lequel sont véhiculés trois types de cellules, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Et chacun de ces composants du sang a une fonction particulière.
Quelles sont ces fonctions ?
Alors, les globules rouges, ce sont les cellules les plus importantes en nombre dans le sang circulant. Elles transportent l'oxygène et elles évacuent le CO2. voilà. Les globules blancs, ce sont nos défenseurs. Ce sont les armes que le corps possède pour se défendre contre les agressions bactériennes, virales, tumorales. Les plaquettes assurent la coagulation du sang, initient la coagulation du sang. Et dans le plasma, il y a beaucoup de protéines, dont les facteurs de coagulation qui vont venir s'associer aux plaquettes pour permettre la coagulation du sang. Et puis l'albumine qui va permettre d'avoir une pression osmotique et de maintenir la volémie.
La volémie, c'est quoi ?
C'est le volume du sang dans les vaisseaux.
D'accord. Le sang, chez certains animaux, la couleur du sang peut varier. Les calamars, par exemple, ils ont un sang bleu. En Nouvelle-Guinée, il y a une espèce de lézard qui est au nom imprononçable. Je vais même pas essayer, je pense, parce que ça va être terrible à l'antenne. Lui, il possède un sang qui est à peu près vert citron. Voilà, c'est en Nouvelle-Zélande. Quelle est la couleur du sang humain et pourquoi il est rouge ? C'est rouge, quoi. Voilà.
Oui. Tout le monde sait que le sang est rouge.
J'espère.
Voilà. Chez l'humain, en tous les cas. Alors, en fait, la couleur rouge du sang humain, elle est donnée par ces globules rouges, qui sont les cellules qui sont les plus nombreuses dans notre sang et qui contiennent un pigment particulier qui s'appelle l'hémoglobine, qui est le transporteur de l'oxygène. Cette hémoglobine, elle comporte un atome de fer qui permet de fixer l'oxygène. Et c'est ça qui donne la couleur rouge au sang. Et chez les mollusques qui ont un sang bleu, eh bien, leur pigment respiratoire, c'est de l'hémocyanine qui comporte un atome de cuivre et qui a une couleur bleue et c'est pour ça que leur sang est bleu.
J'ai entendu parler aussi d'une maladie chez l'humain qui pouvait faire que notre sang aurait des reflets verts ou parce que une hémoglobine différente.
Non, il y a des médicaments qui peuvent donner,
mais
c'est plutôt parce que ça circule dans le plasma. C'est pas l'hémoglobine qui change de couleur, c'est parce que le produit circule dans le plasma et peut du coup donner une couleur au plasma.
D'accord.
Comment le corps humain produit-il du sang ? Il vient d'où le sang ?
Alors,
il y a
le
une
sang
livraison à Amazon ? Non. Comment ça se passe ?
Non, mais cela dit, quand l'organisme a besoin de sang, il sollicite l'usine et l'usine fabrique. Donc c'est quand même une image assez intéressante. Le sang est fabriqué dans la moelle osseuse, dans les os plats et les extrémités des os longs. Donc c'est là que toutes les cellules du sang, à part quelques globules blancs qui peuvent être fabriqués dans les ganglions ou dans la rate, c'est essentiellement dans la moelle osseuse que sont fabriquées l'ensemble des cellules sanguines.
Quand on va, on sait tous le groupe sanguin que chacun a, ça peut être O+, ça peut être A, ça peut être B, ou les deux. Quels sont les groupes sanguins ? C'est quoi la différence ? Pourquoi on parle de groupe sanguin ?
Alors en fait, le groupe sanguin qu'on connaît le plus, effectivement, c'est l'ABO. Après, il y a le système RH et tout le monde sait s'il est positif ou négatif. Ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Mais en fait, il y a une cinquantaine de groupes sanguins différents, sauf que tous n'ont pas la même importance et la même incidence, surtout quand on parle de transfusion. Et donc, les principaux, c'est les groupes ABO, RH et KL. Et en fait, ce sont des petites étiquettes qui sont à la surface des globules rouges, qui sont définies par notre code génétique individuel et qui nous définissent complètement et si jamais on a besoin d'être transfusé, si on nous apporte une étiquette qu'on ne possède pas, et ben notre organisme va le reconnaître comme étranger, va donc solliciter les défenseurs de l'organisme pour détruire cet étranger et ça va entraîner une incompatibilité avec la destruction des globules rouges qui ont cette étiquette qui n'est pas la nôtre, qui ont été transfusés.
C'est-à-dire que quand on fait une transfusion sanguine, on ne prend pas en compte que le groupe sanguin, genre O+, O-.
On prend le...
Alors, il y a d'autres facteurs qu'on prend
en compte ? En fait, non. Parmi les 50, on en prend 3 qui sont les plus importants dont on tient compte pour la transfusion. La BO, le RH et le système Kell.
D'accord.
Et les autres, pourquoi on ne les considère pas plus que ça ?
Mais parce que leur immunogénicité, c'est-à-dire leur capacité à générer des anticorps est moindre. Et les anticorps qu'ils génèrent sont moins dangereux que ceux qui sont fabriqués en défense à la BO ou au RH.
Il y a des sangs qui sont plus rares que d'autres. 44% des Français sont de groupe A. 10% sont de groupe B, 4% le groupe AB, il est assez rare.
Oui, c'est le plus rare.
Les gens qui ont ce groupe sanguin-là, c'est plus intéressant en tout cas de les voir dans votre centre de dons près de l'EFS.
Alors, curieusement non, puisqu'en fait finalement, ils ont toutes les étiquettes à leur surface, donc ils ne peuvent être donnés qu'à des gens qui sont comme eux avec toutes les étiquettes à leur surface. En fait, ils ne peuvent donner que pour des gens AB. Donc, en fait, avoir des donneurs AB, c'est pour répondre à une demande de 4% des patients. Ouais. Donc, en fait, non, c'est pas le sang le plus intéressant, c'est le O qui a des étiquettes qui passent partout et qui peut être donné, en tous les cas pour les globules rouges, qui peut être donné à l'ensemble de la population.
D'accord. J'ai rencontré quelqu'un, je suis allé dans la rue et j'ai parlé à quelqu'un du don du sang. J'ai rencontré Gilles. Gilles, je lui ai parlé il y a quelques jours.
Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me dire votre prénom et ce que vous faites dans la vie ?
Alors je m'appelle Gilles et je travaille en auto-entrepreneur, je fais des chantiers.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler du don du sang et est-ce que par hasard vous donnez ?
Alors bien sûr j'ai entendu parler, mais par contre je ne me suis jamais déplacé pour donner. Non. J'ai entendu dire que dans le don de sang, il y en avait qui servaient pour faire du marché médical. Je ne sais pas si c'est vrai parce que là c'est plus du don là.
Par marché médical, Gilles entendait que le sang était vendu. Voilà. Est-ce que le sang peut servir à autre chose qu'à transfuser quelqu'un ?
Alors, certains éléments du sang, comme le plasma, servent à fabriquer des médicaments dérivés du sang. Mais le don en lui-même est un acte qui est bénévole et il n'y a pas de marchandisation du corps humain.
Donc Gilles est rassuré, c'est bon.
Gilles peut être rassuré. En France, la législation impose la non-marchandisation du corps humain.
On en parlait tout à l'heure, il y a énormément de réglementation qui est fixée auprès de l'EFS pour assurer en tout cas un don du sang qui soit de qualité. Est-ce que tu pourrais me dire comment le sang est utilisé dans les traitements médicaux et les thérapies ?
Alors, le donneur donne son sang total et on va, à partir de ce sang total, on va fabriquer 3 types de produits, du plasma, des globules rouges et des plaquettes. Et chaque élément de ce sang va être utilisé en fonction des pathologies. C'est la transfusion sanguine d'une femme qui fait une hémorragie à la suite de son accouchement. C'est un accident de la voie publique. Ce sont les maladies hématologiques, les cancers du sang qui atteignent la moelle osseuse, donc l'usine de fabrication du sang, et qui donc font que les patients ne fabriquent plus leurs propres cellules sanguines. Donc il faut qu'on leur apporte les plaquettes, il faut qu'on leur apporte les globules rouges. Le temps de leur traitement, le temps de leur maladie et lors des rechutes, malheureusement, c'est la drépanocytose, qui est une maladie congénitale de l'hémoglobine, dont le traitement principal est la transfusion sanguine.
J'avais envie de poser une question est-ce qu'on peut fabriquer du sang artificiel ? Mais je pense qu'on va peut-être faire une petite pause musicale, histoire de se donner une petite pause, et puis on va en parler juste après. Voici Vivre de Michel Berger.
Comme on s'endort, calme et sans penser à rien, en fermant les yeux très fort. Vivre. Il fait beau, je sors, je trouverai le bon chemin, et je me sens mieux dehors. Et les animaux sont tous un peu de ma famille. On est tous partis de rien. Vivre. Torrent, ruisseau, faites, faites, faites couler l'eau. Regardez comme on est beau. on va vivre. Plante, plante, grimper, sève, rentre dans nos corps. Venez danser sur la mort et vivre. Soleil, terre, forêt, les plaines, entrez dans le sang de nos veines. Nous devons devenir forts, nous devons vivre. Din, 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 da, les tambours et les drapeaux, il ne nous reste qu'un mot, vivre. Petit caillou dans ma main, pleure ton pauvre destin. Tu pleures parce que tu voudrais bien vivre. Dieu, Dieu, écoutez-nous, nous relevons votre défi et nous lançons notre cri.
Scientifique sur Radio Campus Paris.
Vous êtes toujours sur l'Happy Hour Scientifique, votre émission de vulgarisation scientifique sur Radio Campus Paris. On va continuer en parlant du don du sang et on va continuer donc avec Laure Bourguigna. Laure, on a parlé tout à l'heure du sang. Justement, la question que je me posais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut fabriquer du sang de manière artificielle ?
Alors malheureusement, non, on ne peut pas fabriquer de sang artificiel. On a bien réussi à fabriquer quelques petits millilitres de globules rouges en laboratoire, mais ça n'est jamais allé plus loin.
Comment ça se fait ?
Bah, si on le savait, je pense qu'on serait très, 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 très... Ça permettrait d'éviter d'avoir recours aux dons, mais c'est d'où toute l'importance de donner son sang.
Je suppose qu'il y a énormément de recherches. Ouais. Oui. Ok, très bien.
Et moi, on peut donner son sang, mais alors on peut aussi faire du don de plaquettes. C'est quoi l'intérêt de faire du don de plaquettes ?
Il y a le don de plasma sanguine. Aussi, je crois.
Et on peut faire aussi du don de plasma. Oui, il y a différents types de dons. Il y a le don de sang total où là, on est prélevé de son sang total. Il y a le don de plasma et le don de plaquettes. Donc, ce sont des dons qu'on appelle d'aphérèse, c'est-à-dire que le sang du donneur passe dans une machine qui va séparer les éléments du sang et on va garder que les éléments qu'on veut conserver. L'intérêt, c'est que ça permet une fréquence de don plus importante que le don de sang total. Qui est limité à 4 par an pour les femmes et à 6 pour les hommes, alors que le don de plasma, par exemple, ça peut être fait à 2 semaines d'intervalle et il y a jusqu'à 24 dons par an possibles.
Parce qu'avec le don de plasma, on ne ressort pas anémié de notre don.
Non, ça, on ne prend que le plasma et le plasma est reconstitué en quelques heures.
On boit 1 litre d'eau et c'est bon, quoi.
Voilà. Et vous buvez surtout pendant le don, vous buvez avant, vous mangez avant et le plasma se reconstitue très rapidement.
Du coup, pour les gens anémiés, est-ce que ça... C'est possible de donner son plasma quand on ne peut pas donner son sang ?
Je pense qu'on peut donner son plasma, mais... Enfin...
À vérifier.
À vérifier. À vérifier.
Quand on fait un don du sang, bah forcément, on a affaire à l'EFS, justement. Quel est le rôle en France de l'établissement français du sang ?
C'est l'opérateur unique de, du sang, c'est l'établissement public qui a en charge le sang sur tout le territoire pour la population civile et donc qui assure le processus de la collecte au, à la transfusion du patient, qui assure toute la chaîne transfusionnelle.
Et donc il n'y en a qu'un, il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas de privé, c'est vraiment...
Non, on a le monopole en fait, jusqu'à la distribution des produits, c'est un monopole.
Est-ce qu'on peut... Alors, donc, pour parler du don, comment ça se passe? Moi je suis quelqu'un, qui ne connaît pas du tout le don du sang, je ne suis jamais allé donner mon sang. D'ailleurs, il y a quelqu'un tout à l'heure qui n'a jamais réussi à donner son sang. Il s'appelle Raphaël, on va l'écouter.
Je m'appelle Raphaël, je me destine à être prof d'histoire géo.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler du don du sang et est-ce que par hasard vous donnez?
Ouais, bien sûr, enfin, j'ai l'impression que c'est quand même assez médiatisé. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Parce que j'ai un petit peu... Enfin, c'est quelque chose qui m'angoisse un petit peu, j'ai un petit peu peur. Déjà, les prises de sang, c'est compliqué. Donc moi, malheureusement, je ne l'ai jamais fait. C'est un truc que je me répète souvent, que ça serait important de passer le pas, mais personnellement, moi, je ne l'ai jamais fait. J'ai eu des modèles autour de moi, j'ai des copains qui donnent, j'ai ma maman qui donne régulièrement. Moi, il y a vraiment ce truc un peu de l'angoisse de voir une poche se remplir de son sang que j'arrive pas trop à dépasser.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à Raphaël pour le rassurer, pour qu'il puisse aller donner son sang? Et qu'est-ce qu'on pourrait dire à n'importe quelle personne qui n'est jamais allée donner son sang pour la convaincre?
Alors, d'abord que c'est une démarche solidaire importante. Hein. Une heure de son temps, on peut sauver 3 vies. Donc ça, c'est quand même... ça a un vrai sens. Ensuite, le rassurer sur le fait que... Effectivement, ça peut être un petit peu effrayant, mais les équipes accueillent les donneurs. L'entretien pré-don permet de vérifier que le donneur est en bonne santé.
C'est avec un médecin, ça, c'est ça?
C'est avec un médecin, oui, tout à fait, ou avec une infirmière spécialisée. Mais ça permet donc de vérifier que la personne qui s'apprête à donner... peut donner en toute sécurité pour elle-même. Ça permet aussi, bien sûr, de vérifier qu'elle donne en toute sécurité pour les éventuels patients qui recevront ces produits. Et puis, le don va être accompagné. Le donneur va être couché dans un fauteuil. Il va pouvoir être allongé pendant le temps du don. Il va être surveillé par l'équipe d'infirmières. Il va être surveillé pendant une demi-heure après le don pour être sûr que tout se passe bien. On va lui donner à boire. On va lui donner à manger pour le requin. A priori,
donc, tout est prévu pour que
il
n'y
a pas beaucoup de
risques
à donner son sang.
Il y a même des centres un peu sympas où des fois on sert des croque-monsieur ou des gaufres, des trucs comme ça.
Tu nous donneras les spots après, on mettra ça encore.
Au CHU de Tours, petit croque-monsieur le mercredi.
Voilà, on a aussi des associations de bénévoles qui accompagnent l'établissement français du sang sur les collectes et qui effectivement améliorent la collation des donneurs après le don.
Parce qu'il faut, me semble-t-il, 10 000 dons, c'est ça, par jour pour pouvoir subvenir aux besoins de l'établissement français du sang.
Pour toute la France et 1700 en Île-de-France.
Est-ce qu'on réussit à obtenir ces chiffres?
Tout à fait, oui, on est autosuffisant sur la partie transfusion sanguine. On n'a pas besoin on a suffisamment de donneurs tous les jours pour répondre aux besoins des patients en transfusion.
Donc pour donner son sang, on peut prendre rendez-vous sur Internet?
Il vaut mieux prendre rendez-vous sur Internet. Il y a une application qui s'appelle Don de sang, sur laquelle qui localise les lieux de collecte, qui permet de prendre rendez-vous et qui permet aussi de répondre à un petit questionnaire pour savoir si on est éligible au don du sang pour éviter
de se déplacer,
pour rien. Tout à fait.
D'accord, donc on arrive. On peut peut-être venir aussi à l'improviste, c'est possible?
Alors,
aussi
on garde toujours dans nos maisons du don ou dans nos collectes mobiles, on garde toujours des créneaux libres de façon à pouvoir accueillir la personne qui n'a pas pris rendez-vous mais qui désire donner son sang à la dernière minute, ou qui, en passant devant, se dit « Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de donner mon sang. »
Très bien. Et puis voilà, si on donne notre sang et puis qu'on n'est pas éligible, le médecin nous le dit, il n'y a aucune conséquence, c'est pas grave, on n'est pas fiché comme quoi...
Non, il n'y a pas de marquage au fer rouge parce que vous êtes... et puis ces exclusions peuvent être tout à fait temporaires parce que vous revenez, vous avez fait un voyage dans un pays où il y a du paludisme et du coup, on ne va pas prendre le risque pour le receveur de lui transmettre cette maladie qui est par définition dans le sang. Donc, mais c'est une exclusion qui n'est pas définitive. Donc
Après, des exclusions, il y en a quand même. Il y a une liste qui est conséquente de facteurs qui peuvent...
Tout à fait. Il y a des exclusions définitives, mais qui sont vraiment...
Mais ou même temporaires, il y a quand même...
Et temporaires aussi, oui.
Donc ça vaut le coup de vérifier peut-être avant d'aller donner, parce qu'il y a peut-être des choses, on sait d'avance que, oui, on vient de se percer
l'oreille. Voilà, mais c'est les grands items des exclusions qui sont sur l'application pour savoir effectivement...
Très bien.
Après, il peut y avoir des exclusions temporaires qui évoluent dans le temps en fonction des épidémies, en fonction...
Ah oui, si on a une épidémie à Singapour.
Par exemple, au début d'émission, on a parlé du Covid-19. Est-ce que pendant le Covid-19, il y a eu des répercussions sur le don du sang?
Alors, sur les donneurs en eux-mêmes, non, puisqu'il n'y avait pas de transmission sanguine de la maladie, donc pas d'impact. Mais par contre, ça a été l'occasion, comme au début, avec le confinement, c'était très désorganisé, de mettre en place les rendez-vous pour donner le sang. Et puis, ça a un peu changé le profil des collectes maintenant, puisque le télétravail fait que on peut moins faire de collectes dans les entreprises. On a moins de...
Ouais, c'est un impact aussi, ça.
Voilà, c'est un impact un petit peu indirect. Ce n'est pas médical, mais en tous les cas, organisationnel et important pour la fréquentation de nos collectes.
Combien de temps ça dure, un don?
Pour un don de sang total, il faut compter une heure.
Une heure? Bon, ce n'est pas tant que ça.
Non.
Voilà, les gens peuvent se déplacer et donner, et ça ne prendra qu'une heure de leur temps. Est-ce qu'il y a des périodes de l'année où les besoins sont plus importants au niveau du sang?
Alors, c'est... Les besoins plus importants, non. Les besoins sont constants puisque les malades sont toujours là. C'est plutôt les donneurs qui sont un petit peu moins au rendez-vous parce qu'ils partent en vacances. C'est des périodes de vacances, hein, les congés estivaux, les fêtes de fin d'année, les ponts du mois de mai où les gens aussi sont très mobiles. Donc là, la fréquentation des collectes est un petit peu moindre. Et par contre, les malades, eux, sont toujours là. La maladie, elle ne prend pas de vacances et on a besoin...
Et il y a besoin de dons de sang.
Il y a besoin de dons de sang.
Combien de temps vous pouvez garder les poches de sang?
Alors, ça dépend de l'élément, puisqu'on n'utilise pas le sang total comme ça, hein, ça dépend des éléments. Donc, les globules rouges, c'est 42 jours. Les plaquettes, c'est 7 jours. Donc, c'est
donc
très,
on
ne
peut pas faire
rapide.
De stock. On ne peut pas donner beaucoup...
Non, voilà. On a... Et les plasmas, c'est 3 ans. Parce qu'on le congèle. Qu'on le décongèle quand on en a besoin.
On va poursuivre dans un instant notre discussion. Mais d'abord, on va parler avec Sacha des théories farfelues qui ont coulé à travers l'histoire et les cultures autour du sang.
Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance répandu pour la multitude en rémission des péchés. » Ça, c'est Jésus qui le dit dans l'évangile selon saint Matthieu lors de son dernier repas. Le sang, dans la culture juive de l'époque, est alors un symbole de la vitalité. Jésus, alors fils de Dieu, a l'autorité nécessaire pour donner le signe de la vie avec un grand V aux hommes. Bon, rassurez-vous, vous n'avez pas basculé d'un coup sur Enquête d'Esprit, l'émission chrétienne de CNews. Bolloré n'a pas racheté Radio Campus Paris. Dans cette chronique, je vais revenir, vous l'aurez compris, sur un bon nombre de fantasmes et de croyances mystico-religieuses autour du sang.
Et on remonte donc avant l'an zéro.
Dès l'Antiquité, en effet, le sang est conceptualisé comme liquide régénérateur, pouvant redonner à la vieillesse l'énergie physique et la beauté du corps. La théorie des humeurs, du philosophe grec Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, est une des bases de la théorie médicale antique. Selon cette théorie, le corps est constitué de 4 éléments fondamentaux, air, feu, eau et terre. Ces derniers possèdent 4 qualités, chaud ou froid, sec ou humide. Ils se rapportent à des fluides, soit la pituite ou lymphe, liée au cerveau, la bile jaune liée au foie, l'atrabile ou bile noire venant de la rate, et enfin le sang produit par le foie et reçu par le cœur. L'idée derrière est que ces éléments doivent coexister en équilibre pour que la personne soit en bonne santé. Aujourd'hui, on sait que tout ce que je viens de raconter est totalement faux.
Ah,
ces anciennes croyances ont conduit à des pratiques plus que douteuses, comme par exemple la saignée, qui visait à chasser certaines humeurs hors du malade en écoulant son sang pour rééquilibrer les éléments. Et en fait, celles-ci, elles aggravaient plutôt l'état des malades qu'autre chose.
Alors aujourd'hui, l'état de la science a complètement démenti ces croyances, donc on en est sorti, c'est ça ?
Oui, la science est claire, mais les esprits le sont moins. Nombre de théories baignant dans un complotisme aberrant, on pourrait même parler de stupidisme à ce stade-là, continuent d'imbiber les sphères d'extrême droite. Aux États-Unis, encore eux, ce sont les QAnon qui versent là-dedans. Ces soutiens de Donald Trump croient dur comme fer que l'Occident est dirigé par une secte mondiale secrète de pédosatanistes qui boivent du sang, et du sang d'enfants en plus. Les démocrates, Obama, Clinton, Biden ou encore le Dalai Lama et le pape seraient adeptes de ce réseau en exploitant les enfants dans une cave d'une pizzeria de Washington DC. À partir de 2018, le sang a pris une place de plus en plus importante dans les récits et sous-récits complexes de cette secte QAnon qui évolue en permanence. Note Wu Ming Wan, un membre du collectif d'écrivains Wu Ming qui travaille sur le rôle socio-historique de la narration.
Et on parle là d'une molécule qui suscite des histoires farfelues.
Et oui, c'est l'adrénochrome qui revient. Elle est issue de l'oxydation de l'adrénaline. Cette substance serait une drogue provenant du sang d'enfants sacrifiés. Le jeudi 9 mars 2023, c'est Gérard Fauré, un ancien dealer de cocaïne qui en aurait vendu à tout le gratin parisien, qui est invité sur le plateau de la superbe émission « Touche pas à mon poste » pour réagir à l'affaire Pierre Palmade. Il accuse ce dernier d'en consommer. Il dit « l'adrénochrome, c'est du sang d'enfant, qu'on prend sur des enfants de 3 ans pour commencer ». Il y a des gens qui disent que ça existe, a commenté le présentateur Cyril Hanouna. Bon, en fait, le délire autour de l'adrénochrome vient du roman Las Vegas Parano du journaliste écrivain Hunter S. Thompson, qui est une épopée psychédélique où les protagonistes enchaînent les drogues et les hallucinations dans l'absurdité de l'abondance bling-bling de Vegas. Mais on sait que l'adrénochrome est purement satirique dans ce roman et complètement exagéré. La molécule existe bien, mais en vrai, elle n'a que peu d'effet, voire pas du tout. Et au passage de la séquence de Cyril Hanouna, l'Arcom avait annoncé une sanction de 500 000 euros à l'encontre de C8 sur cette séquence. Mais depuis, l'émission tient toujours, pas de licenciement, alors que cette théorie est à l'origine profondément antisémite. Selon Joël Kotek, qui est historien et professeur à l'Université libre de Bruxelles, le mythe de l'adrénochrome nous ramène à l'une des clés de voûte de la pensée antisémite, au mythe du juif tueur d'enfants, ce que l'on appelle le crime rituel ou mythe du juif cannibale, ce qu'on appelle le libelle de sang. Voilà le vrai visage de l'antisémitisme. En aparté, soutien à Guillaume Meurice et à son injuste licenciement.
Soutien à partager. Et donc, derrière ces délires sanguinolents, il y a du racisme.
Eh bah oui, l'obsession de la pureté, de la lignée, de la supériorité raciale, ça sonne carrément nazi, quoi, fasciste. Obsession d'ultra-riches libertariens également, comme celle de Brian Johnson, qui est un entrepreneur américain de 45 ans, qui lui dépense environ 2 millions de dollars par an pour se faire transfuser le sang de son fils âgé de 17 ans. Bon, peur de la mort, omnibulation de la quête de jouvence, mais zéro effet clinique. On a longtemps cru au mythe également de la mythe de la désintox express de Keith Richards, l'iconique guitariste des Rolling Stones et junkie de renom, qui avait fait croire que le remplacement de tout son sang dans une clinique privée en Suisse. Aujourd'hui, cette théorie est complètement démontée. On sait que le record n'aurait eu recours qu'à une simple dialyse destinée à éradiquer les toxines, mais surtout à de la persévérance et puis à arrêter de prendre de la drogue, en fait. Donc, moralité, arrêtons de croire n'importe quoi. Le sang sert à plein de choses incroyables biologiquement, mais il ne représente ni divinité, ni droiture généalogique et n'apportera pas l'immortalité. Vous pouvez en être 100% sûr.
Donc Brian Johnson a tort, c'est certain.
Brian Johnson a tort,
très bien. On va pas investir dans ce qu'il fait, dans la manière qu'il fait avec son fils de 17 ans, tu m'as dit ?
17 ans, voilà. Et puis il a enrôlé le grand-père aussi également, maintenant, qui a 70 ans.
Lui.
Donc voilà, il y a une lignée qui s'échange du sang.
Incroyable.
Dans des instituts privés américains.
Alors, on va revenir au don du sang. Merci pour ta chronique hyper intéressante. Je savais pas qu'il y avait autant de choses sur le sang. Il y a plein de trucs à dire sur le sujet. On va revenir avec Laure Bourguignat. Laure, est-ce qu'il y aurait des mythes courants dans le don du sang que vous aimeriez dissiper un petit peu, voilà. Est-ce qu'il y a des mythes voilà.
Oui, alors il y a bien sûr qui constituent des peurs d'ailleurs pour les donneurs. Hein. C'est d'abord que le don du sang fait mal. Alors oui, ça ne fait pas mal. C'est l'équivalent d'une prise de sang, en fait. Rien de plus. Il y a aussi les idées que quand je donne mon sang, je peux attraper des maladies. Ça,
c'est faux.
C'est tout à fait faux, en fait. Hein. Bien sûr, le matériel utilisé est à usage unique, l'asepsie est respecté, donc il n'y a pas de risque à attraper de maladie en donnant son sang. J'ai été refusée, donc je ne peux plus donner mon sang. Non, comme je le disais tout à l'heure, il y a des périodes avec des épidémies ou des conditions de voyage dans des pays particuliers avec des maladies particulières dont la transmission se fait par le sang qui peuvent exclure du don du sang, mais temporairement, pour 4 mois, 6 mois, mais ce n'est pas forcément définitif. Il faut être à jeun pour donner son sang. Mais non, surtout pas. Il faut avoir, il faut avoir des forces. Il faut avoir pris son petit déjeuner ou son déjeuner. Il faut avoir bu et on vous redonne à boire avant de vous prélever. Et
ça peut être dangereux si on est à jeun en donnant son sang.
Oui, parce qu'on retire quand même un volume conséquent de sang. Donc il faut vraiment être à jeun et il faut vraiment être.
Pardon. On va pas dissiper
il faut vraiment avoir mangé avant de donner son sang. Bien sûr, c'est une petite épreuve quand même pour l'organisme, le fait d'avoir 400 ml de sang qui est retiré.
Et de toute façon, le centre de don insiste bien sur le sujet pour même quand vous arrivez, on vous donne une bouteille d'eau d'office. Voilà, vous devez
exactement,
la boire.
Exactement, parce qu'on va vous retirer du liquide et donc il faut vous apporter du liquide pour que le plasma se régénère. Et puis, est-ce que ça va me fatiguer le don du sang? Ben oui, on va vous dire quand même que. Enfin, ça va pas, vous n'allez pas sentir une grande fatigue, le donneur ne va pas sentir une grande fatigue, mais on va vous dire de ne pas faire de sport pendant les 24 heures qui suivent quand même. Il vaut mieux se reposer par précaution. Mais après, l'organisme reconstitue les éléments du sang très rapidement. Et comme il est sollicité parce qu'on lui en a retiré un petit peu, bah, il va fabriquer ça encore plus vite. Et donc, tout va très bien se passer dans les suites.
D'accord. Dominique, c'est quelqu'un que j'ai rencontré également. C'est une personne que j'ai rencontrée devant un centre de dons. Elle venait de donner et justement, elle a un beau message à nous faire passer.
Alors, je m'appelle Dominique Edelman. Je suis retraitée et j'étais enseignante. Alors j'ai donné mon sang, étant donné que j'ai plus de 70 ans, je ne peux plus faire de dons de plaquettes ou de plasma. Les hôpitaux en ont besoin, j'ai eu de la famille qui a eu besoin de recevoir du sang, donc je le donne et ça je le donne depuis que j'ai 20 ans. Autrement dit, ça fait 50 ans.
Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui voudraient, qui n'osent pas franchir le pas, ou à d'autres gens qui n'ont jamais donné pour leur donner envie de donner?
S'ils ont une crainte, il n'y en a aucune à avoir, ça se passe très bien, le personnel est très agréable, très aimable, et tout se passe dans de très bonnes conditions. Et leur geste peut aider, sauver des personnes peut-être inconnues ou peut-être des proches. Et donc c'est utile.
Un beau message qui nous est délivré par Dominique. On va passer par The Police, Every Breath You Take, pour faire une petite pause.
Scientifique sur Radio Campus Paris.
C'est l'Happy Hour Scientifique, on est de retour, il est 20h43 dans votre émission de vulgarisation scientifique mensuelle sur notre radio 93.9, Radio Campus Paris. N'oublions pas ça. C'est l'heure de Cap ou pas Cap avec Lorraine.
Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
Oui, le moment que vous attendiez tous, le caps ou pas caps. Alors, pour vous motiver un peu, parce qu'on n'est pas des pinces, vous aurez un cadeau par bonne réponse.
Ooh.
Oui, madame, oui, monsieur, on n'a pas peur de la générosité ici. Avec ces cadeaux, vous pourrez éponger tout le sang que vous voudrez, puisqu'il s'agit de roulement de tambour. On est aussi bruiteurs professionnels. De protection hygiénique, et oui, de tampons et de serviettes, c'est la fête. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez les laisser dans un bar pour qui en aurait besoin, ou des gens autour de vous qui auraient besoin,
très
ou
bien.
Des personnes dans la rue qui seraient en précarité menstruelle. Il y a plein de personnes qui les accepteront. Alors, on va commencer facile avec quelques questions de vocabulaire. On va très vite. Comment appelle-t-on la peur du sang?
Wow. L'hémophobie, non?
Ouais, pas exactement, pas loin,
Hématophobie.
Hématophobie, mm-hmm. Tout à fait. Alors, il faut savoir que c'est une des rares phobies où on peut s'évanouir. Il n'y en a pas beaucoup, mais celle-là, le malaise vagal est possible. À noter que l'hémophilie n'est pas le contraire de l'hématophobie. Ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer le sang. Hein, c'est une maladie à proprement parler, où le sang a des problèmes de coagulation. Petite question bonus, l'hématophobie, elle est souvent associée à la peur des seringues, des aiguilles. Est-ce que vous connaissez le nom de cette phobie ?
Waouh, c'est dur.
Est-ce que tu as un indice pour nous ?
Quelle lettre ?
C'est latin peut-être ?
Je n'ai vraiment aucune culture grecque ou latine.
C'est quoi la première lettre ?
Alors, il y a deux noms qui existent. Il y en a un qui commence par un B et l'autre qui commence par un T. Il y en a un, le nom ressemble très fortement à la peur des trous, la phobie des trous.
Ah, alors c'est la peur des trous, c'est trypophobie.
Oui.
Mais vous êtes fous.
Donc, vous avez beaucoup de vocabulaire, effectivement.
Ouais, j'adore les phobies, c'est une passion.
Bon, je vous le dis, c'est la trypanophobie ou la bélénophobie qui est plus utilisée, la bélénophobie. Donc c'est la peur des aiguilles, mais aussi du geste médical en lui-même, finalement. Donc,
comme Raphaël qu'on entendait tout à l'heure, qui avait la peur de l'aiguille.
Ah,
Je pourrais lui dire, je l'appelle.
Lui dire et qu'il a la bélénophobie.
Très bien.
Alors, on va sortir des phobies pour revenir à un truc vachement plus fun. Est-ce que vous sauriez me dire ce qu'est l'hématidrose ? Alors là aussi, on peut faire appel un peu aux racines grecques. Ouais, je pense que c'est grec.
Je pense que c'est lié au sang.
C'est pas une déformation de certains globules ?
Non.
Pas quand les hématies ? Non.
Hématidrose. Est-ce que hyperhidrose, ça vous parle ?
Pas du tout.
Hyperhidrose.
Hydrose. Eau. Ouais.
Il y a trop d'eau dans le sang.
Alors, hyperhidrose, ça n'a pas à voir avec le sang. C'est pour vous aider à trouver.
Déjà est-ce qu'on est sur une
maladie ? Alors, l'hyperhidrose est aussi une forme de maladie qui est plus ou moins handicapante. L'hyperhidrose, c'est l'hypersudation.
Ah, ok.
Alors, l'hématidrose, c'est une maladie extrêmement rare.
C'est le fait de trop saigner, d'une plaie.
D'avoir
peut-être.
Trop de sang.
Non.
Des globules perdus.
Trop de sang.
Non.
De consommer du sang ?
Non, ça a à voir, je vous dis, avec l'hypersudation.
Tu transpires du sang.
Tu transpirais du sang. C'est extrêmement rare, il y a quelques cas par an dans le monde. Ça vient d'un dysfonctionnement hormonal et on a un dérèglement de la production d'adrénaline qui atteint des taux parfois 20 fois supérieurs à la moyenne. La conséquence, c'est beaucoup d'anxiété, une élévation et surtout une élévation anormale de la pression sanguine. On aurait une dilatation des vaisseaux de la peau et qui peuvent se rompre, ou en tout cas se léser. Alors je dis aurait parce que, évidemment, comme il y a très peu de cas, il y a aussi très peu de recherches sur le sujet. Le sang se déverserait alors dans les glandes sudoripares et franchirait ainsi la barrière cutanée, mais ça sans aucune blessure ni anomalie de coagulation. Ça se fait surtout au niveau des mains, du visage et voire des larmes de sang.
C'est dingue, c'est dangereux.
Ce n'est pas dangereux du tout.
D'accord.
Absolument pas. C'est juste très handicapant socialement.
Ah oui, tu m'étonnes.
On change un petit peu de domaine, cette fois-ci avec l'hématomancie. Allez, je vous fais encore bosser les racines.
J'ai pas fait ça.
Hématomancie. Hémato, on est encore sur le sang.
On est encore sur le sang, bien joué.
De toute façon, l'émission est sur le sang.
Sacha.
Le manque de sang ?
Non.
Non.
Mancie, est-ce que vous connaissez d'autres mots avec mancie ?
Mancie. Émancipé ?
Hématomancie. La nécromancie, la...
Il a quelque chose, non.
C'est dur, hein. C'est
pas facile. Alors là, je vous dis, on est très loin de la science.
Est-ce qu'on est dans quelque chose d'un peu mystique, d'un peu magique ?
Ouais.
Tu fais de la magie avec du sang, tu fais des potions magiques avec du sang.
Exactement, c'est de la magie et des rituels magiques avec du sang.
Wow.
On parle de sanguimancie également. C'est une pratique occulte, parfois un art divinatoire avec du sang d'humain ou d'animaux. Est-ce que vous auriez des idées, d'après vous, de choses qu'on pourrait faire grâce à la sanguinomancie ou hématomancie.
Aucune idée.
des potions d'immortalité.
J'ai pas trouvé ça. Après,
c'est d'après
le site grimoireuniversel.net qui nous donne quelques usages. Bon, je vous les donne tout de suite. On peut consacrer des objets, des outils qui vont servir aux sorciers. On peut s'en servir en remplacement d'un cercle de sel, parce que j'imagine que vous utilisez souvent des cercles de sel.
Évidemment.
Ce sont des cercles de protection pour faire un rite. On peut également faire un sceau, une empreinte sanglante pour sceller un pacte de manière irréversible, un peu à la façon du serment inviolable d'Harry Potter. Mais celui-là, il ne faut pas le faire avec une chemise blanche parce que ça tâche.
Tu m'étonnes.
On peut également faire de l'envoûtement en amoureux. On peut faire quelques potions pour les filtres d'amour. Alors, quels sens sont à privilégier d'après toujours le site grimoireuniversel.net, qui est vraiment une source fiable, je vous l'assure. Semble-t-il que les poulets, les rats, les serpents, les chèvres, les moutons, les chats noirs et les chiens sont très utilisés. Et alors,
peu importe le groupe sanguin.
Peu importe le groupe sanguin, effectivement, ils sont pas très précautionnés là-dessus.
Alors, c'est pas sérieux ça.
Pour le sacrifice humain, quand même, le site précise, ouvrez les guillemets, la loi restreint considérablement cette pratique. Les sorciers modernes reconnaissent une plus grande efficacité à la magie du sang lorsqu'il provient d'un être humain, mais les participants volontaires n'étant plus dans les mentalités actuelles, ils lui préfèrent, là c'est le site qui le site nous rassure, ils lui préfèrent un fluide d'origine animale pour ne pas s'exposer à l'illégalité en utilisant des victimes non consentantes. Nickel. Est-ce qu'il me reste un petit peu de temps ?
Je t'en prie, vas-y.
Alors, les rituels magiques, les saignées, les théories des humeurs, on l'a vu, le sang a une place importante dans notre société, en témoignent de nombreuses expressions, se faire un sang d'encre, faire preuve de sang-froid, avoir le sang chaud, la liste est longue. Et il y a un sang en particulier qui rend les humains très cons depuis la nuit des temps, c'est... Vous l'avez vu venir avec mon cadeau, le sang des règles, à qui on porte de nombreuses propriétés et surtout de nombreux maléfices. Est-ce que vous sauriez m'en citer quelques-uns des maléfices qu'on a pu donner au sang des règles à travers les âges, qui font que des femmes ne vont plus à l'école quand elles ont leurs règles, sont exclues de leur village, leur ville quand elles ont leurs règles, on le rappelle.
La possession par un démon.
La possession démoniaque, complètement, tout à fait. Dans l'Antiquité, on était à fond là-dedans, les femmes menstruées. Si on s'approchait d'elles, on pouvait s'exposer à la malédiction ou au mauvais sort. Alors pendant longtemps aussi, c'était considéré comme une maladie, puisqu'on ne savait pas vraiment d'où ça venait. Est-ce que vous auriez d'autres idées ?
Il y a d'autres trucs ?
Ah, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Bon, je vous les donne. Rendre les terres stériles, faire pourrir les végétaux, ça venait d'un médecin qui avait un jour offert un bouquet à une dame pendant qu'elle avait ses règles. Le bouquet le lendemain était fané, il en a déduit que le sang, les menstruations. voilà.
Ne pas arriver à faire une mayonnaise.
Pas arriver à une mayonnaise qui est encore présente chez certaines personnes. Mais des fois, ça pouvait aussi être utile à la société, puisqu'à la fin du 19e siècle en Anjou, apparemment, on demandait aux femmes ayant leurs règles de traverser les champs de choux infestés de chenilles en pensant que le sang menstruel pourrait éradiquer l'insecte.
Incroyable, on a appris plein de trucs.
Alors, il faut savoir aussi que très récemment, quand même sur les réseaux sociaux, on a vu des routines beauté incluant du sang de règles. Évidemment, il ne faut pas le faire, c'est très irritant pour la peau, ne le faites pas.
Les réseaux sociaux, je te jure, c'est dingo. Merci beaucoup pour ta chronique, Lorraine.
Avec plaisir.
On a appris plein de trucs, encore, et c'est très fun. On va finaliser avec Laure Bourguignat, qui est toujours avec nous. Il est à 20h52. Tu es directrice, adjointe de l'établissement de transfusion sanguine. On va poursuivre un petit peu. Je sais qu'en France, donc, c'est un geste bénévole de donner. Il y a des pays qui rémunèrent leurs donneurs. Pourquoi en France, ce n'est pas le cas ?
En fait, la France a fait le choix de faire du don quelque chose de bénévole et de non-profit parce que ça peut conduire à un risque sur la qualité des produits sanguins qu'on collecte sur le don, puisque un donneur, s'il estime qu'il a besoin de récupérer un peu d'argent, il va peut-être omettre de dire qu'il est malade
pour avoir le
gain financier à la clé, tout à fait. Donc, c'est la raison pour laquelle, principalement, en France, le choix est fait d'un don bénévole sans rémunération.
D'accord. Est-ce qu'on importe quand même du sang qui vient d'autres pays en fonction de
Alors,
ce qu'on a besoin ?
Pour les transfusions sanguines, on est autosuffisant, on n'a pas besoin d'importer. Par contre, pour fabriquer des médicaments dérivés du sang, qui sont des produits qu'on extrait du plasma, là, par contre... Pour 65%, on est obligé d'importer du plasma de pays qui peuvent parfois avoir recours aux dons rémunérés.
D'accord.
Tout l'enjeu de l'EFS, c'est d'augmenter sa collecte de plasma pour pouvoir répondre aux besoins de médicaments dérivés du sang et pour pouvoir gagner sa souveraineté médicale, sanitaire sur ce plan-là. Et donc, c'est un des enjeux de l'EFS dans les années à venir.
Bien entendu, et puis pour améliorer en tout cas l'image du don du sang, il y a la journée mondiale qui aura lieu demain pour tous les donneurs de sang. Est-ce que vous pouvez me dire comment la pandémie elle a impacté vos dons ? Est-ce qu'il y a eu des problématiques qui se sont posées lors de la pandémie ?
La pandémie Covid-19,
bien sûr.
C'est là que ça nous a conduit à mettre en place les rendez-vous de don du sang.
Parce qu'avant, il n'y avait pas, je crois.
Non, il n'y avait pas de rendez-vous auparavant. Donc là, il y a des rendez-vous, il y a toujours des plages libres, mais effectivement, c'est essentiellement par rendez-vous. Et puis, ça a conduit un petit peu à modifier nos pratiques de collecte, puisque le télétravail a quand même beaucoup changé.
Là, bien sûr. Et donc là, il y a beaucoup d'actualités en ce moment. Il se passe énormément de choses. Là, ça va être les vacances d'été. on va avoir les Jeux Olympiques. Là, on a les élections législatives qui arrivent, les élections qui arrivent. Comment ça va se passer au niveau du don du sang ?
Alors, c'est justement une problématique importante qui est donc chaque année la même au moment des, enfin, en amont des congés d'été. Il faut vraiment qu'on sensibilise les donneurs pour qu'ils viennent se déplacer maintenant et donner leur sang maintenant. Parce que les fréquentations des collègues, du fait des Jeux Olympiques, du fait de collègues qui peuvent être annulées pendant les deux tours des élections, hein, nos collègues ont lieu dans des salles municipales, dans des écoles. Donc il y a des salles qui vont être réquisitionnées pour les élections. Ah ouais. Et du coup, l'EFS n'aura pas accès à ces salles pour pouvoir réaliser des collectes. Donc on risque de perdre un certain nombre de collectes.
Donc il y a déjà eu des annulations de...
Il y a déjà eu, depuis D'accord. l'annonce des législatives, il y a déjà eu des annonces d'une dizaine de collectes.
Ah oui, quand même, d'accord. Ouais. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément quand il y a des annonces comme mais ça joue aussi sur
vous. En fait, la fréquentation des collectes est très influencée par le contexte politique, par les épidémies, même par la météo parfois. Alors là, ce n'est pas le souci. Par contre, pour les gens qui partent en vacances, surtout s'ils ne peuvent pas donner, les Franciliens qui partent en vacances, s'ils ne peuvent pas donner en Île-de-France, ça n'est pas grave qu'ils donnent sur leur lieu de vacances. Ils trouveront forcément une collecte quelque part près de leur lieu de villégiature et où ils pourront donner. Donc vraiment, il faut que... le don n'est pas forcément régional. Ce n'est pas parce qu'on est francilien qu'on doit donner en Île-de-France. On peut donner si on est en vacances en Bretagne, au Pays Basque ou sur la Côte d'Azur.
Bien sûr, vous êtes partout.
Exactement, il y a des lieux de collecte partout en France.
Près de 10 000 salariés pour faire tout ça.
Oui,
ça en fait du monde. Est-ce que vous voudriez me parler un petit peu des grands défis qui sont prévus en fait, pour les prochaines années, pour l'EFS ?
Bien sûr. Alors, les grands défis, c'est maintenir cette autosuffisance qu'on a pour la transfusion sanguine, avec un aspect en plus qualitatif, puisqu'on a une population de patients de différentes ethnies et qu'il faut qu'on ait une adéquation entre les origines ethniques variées de nos patients et les origines variées des donneurs pour pouvoir avoir les bons produits pour les bons patients. Donc ça, c'est un premier défi. Un deuxième défi, c'est que les donneurs actuels vieillissent. À partir de 70 ans, on ne peut plus donner son sang. Il faut les remplacer. Les jeunes sont des bons donneurs. C'est-à-dire que la population entre 18 et 30 ans, c'est quand même le pourcentage le plus important de donneurs. Mais ils donnent un peu moins que les donneurs plus âgés. Donc il faut arriver à les sensibiliser sur la fidélisation et le retour au don.
Et puis il faut aller les chercher où ils sont.
Et il faut aller les chercher où ils sont. Donc là, il y a des campagnes qui sont faites. Ça commence dès l'école. Et puis, il y a des collectes qui sont faites dans les universités.
Ça marche bien, ça.
Sur
les lieux de travail.
Dans les quartiers très étudiantins, près de la mairie du 5e, par exemple, il y a une majorité de donneurs très jeunes quand on fait une collecte dans ce quartier-là.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Pour l'avenir, en tout cas.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous pourriez me parler peut-être d'innovations technologiques ou scientifiques qui pourraient arriver, peut-être, prochainement ?
Pour l'instant, malheureusement. Heureusement, on n'a pas de vraie innovation à moyen terme. Il y a des travaux sur la culture des cellules sanguines, mais on en est vraiment au balbutiement. Et pour l'instant, c'est pour ça que le don du sang reste vraiment très, très important, parce qu'on n'a pas de traitement substitutif aux éléments du sang qu'on récupère par le don du sang.
Et on rappelle, le don du sang, ça peut sauver 3 vies, donc.
Tout à fait.
Quel chiffre on pourrait rappeler à des gens pour les convaincre, là, sur les derniers instants
de cette
émission ?
On a besoin de 1700 dons par jour en Île-de-France pour pouvoir faire face aux besoins des patients. Donc voilà, c'est vraiment important. Et en Île-de-France, on est très consommateur, puisqu'on a quand même beaucoup de centres hospitaliers avec des spécialités très, très pointues et des pathologies très lourdes qui sont prises. Et donc, l'Île-de-France consomme 20% des besoins. Donc, vraiment, c'est très important. Et l'autre message, c'est de donner sur votre lieu de villégiature.
Bien sûr, et puis forcément, là, il y a l'été qui arrive, donc n'hésitez pas à vous rendre dans un centre de dons, prenez rendez-vous, informez-vous sur Internet au niveau du site Internet et de tous les supports d'information qui existent pour le don du sang créé par l'EFS.
L'application don du sang sur le téléphone.
Bien entendu, merci beaucoup d'être venu sur le plateau, Laure Bourguignia et Virginie Bonnet qui étaient également avec nous pour l'EFS et l'établissement de transfusion sanguine Île-de-France. Merci Pierre-Yves pour la régie, t'as été au top. Sacha Citerne, merci pour ta chronique, c'était au top.
C'était cool.
Et merci également à Hilaria pour ta chronique sur les gorgées de science. Merci également Lorraine pour tes actualités.
Oh mais de rien.
Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. On rappelle donc le don du sang, c'est très bientôt. Allez-y avant l'été, c'est parfait. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Campus Paris.
Donnez votre sang et allez voter. Bon, ben, il y a messieurs, hein. À la prochaine. Et au revoir. Et puis, faut bon retour, hein. Au revoir, messieurs.